There are 274 million French speakers in the world. For France's Emmanuel Macron, speaking French opens doors in an increasingly globalized world. But what many don't realize is that there are more French speakers in Africa than Europe. In 2014, there were 150 million Francophones in Africa, but less than 100 million in Europe. There's another 20 million from the Americas and the Caribbean, followed by 2.5 million in the Middle East and Asia. Finally, around 1 million are living in the South Pacific. By 2050, Africa could account for 85% of the Francophone world. But according to the International Organization for la Francophonie, those numbers could change depending on how the organization's 54 member states choose to reinforce the language's teaching. With a potential for 700 million speakers, French could become the most widely spoken language in the world. But for now, it ranks fifth worldwide, behind Arabic, English, Spanish, and Mandarin, with 848 million speakers.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Faucon Richaud targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target, Popori Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m., in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie. Mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Pot Pourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans. Sur CUT 89,5 FM, Popourri Show, sur votre fréquence, tout au long de l'année, la radio, comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette, with butter or marmalade?
In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country.
Again, the Springfield city manager says there's no evidence of that. Vice President Harris, I'll let you respond to the rest of what you've heard.
You talk about extreme.
Clichés racistes, fake news visant les Haïtiens. Donald Trump ne ménage pas ses attaques contre les immigrants et ses adversaires. Qui, selon vous, pourrait le mettre en knockout? Le face-à-face Trump-Harris a-t-il changé la donne? Kamala Harris a-t-elle vraiment pris l'avantage? À quelques semaines du scrutin, ce face-à-face pourrait-il rebattre les cartes et influencer le résultat final? Le soutien de la chanteuse connue mondialement Taylor Swift à Kamala Harris peut-il changer la donne? Présidentielle américaine 2024, le monde entier attend avec impatience le verdict fatidique. Rejoignez-nous sur Facebook, suivez-nous sur X et soyez des nôtres chaque dimanche pour une analyse complète en partenariat avec nos collègues France 24 et RFI. Popourri Show sur CUT 89,5 FM, les dimanches de 11h à 13h, ou en podcast popourrishow.com. Et oui, le Festival Burlesque de Toronto est de retour du 3 au 6 octobre au club mythique de Toronto, El Mocambo. Plus de 50 artistes burlesques, drag queens et cabarets de toute l'Amérique du Nord, avec 4 vitrines sensuelles de glamour, d'humour et de performances de haut calibre, ancrées dans des messages de diversité, d'inclusion et de positivité corporelle. Allez, je vous donne rendez-vous sous les palmiers au Festival Burlesque de Toronto, du 3 au 6 octobre, au El Mocambo Club, dans une ambiance chic et sensuelle. Et nos partenaires du Festival Burlesque de Toronto offrent 2 paires de billets à des heureux chanceux pour la soirée du lancement, le jeudi 3 octobre, et pour le brunch du dimanche, le 6 octobre. Écrivez-moi immédiatement à popourri@cut.fm. Plus de détails sur torontoburlesquefestival.ca ou popourrishow.com. Alors, on danse. Vous êtes à la recherche d'objets d'occasion. Vous avez un petit budget. Pas de problème. Si vous êtes adepte de la seconde main, vous êtes à la recherche des objets d'occasion pour moins de $100, notre amie Janine Maillard, fondatrice de FKZO et de Nagaza Fest, vous donne rendez-vous à sa deuxième vente le 28 septembre de 9h à 16h à Mississauga. De nombreuses entités existent pour trouver son bonheur. De nombreux matériaux en attente d'une deuxième vie, du mobilier, des vêtements, de la décoration ou l'électroménager et les appareils domestiques. Nagaza Fest, eh oui, le plus gros dépôt d'objets d'occasion, le 28 septembre de 9h à 16h à Mississauga, à ne pas manquer. Découvrez le choix d'objets d'occasion disponibles pour moins de $100 sur nagazafest.ca ou encore popourrishow.com. Allez, on y va! Et oui, le mois du créole revient dès le 29 septembre sur CUT 89,5 FM en partenariat avec le Comité international pour la promotion du créole et de l'alphabétisation, le KEPCA, la 23e édition Mois du créole à Montréal et nos médias partenaires. Le mois du créole sur CUT 89,5 FM et au KEPCA est devenu un rendez-vous incontournable de toutes les cultures créoles, dans et au-delà de leurs frontières géographiques. Le 1er octobre, le KEPCA vous invite à la soirée d'ouverture du Mois du Créole au Centre FI, 315 rue Saint-Paul à Montréal, pour célébrer la richesse et la beauté de la culture créole avec un spectacle de lancement inoubliable. Au programme, un groupe de 9 musiciens talentueux sous la direction de Gaïa. L'artiste vedette du Mois du Créole, Rebecca Jean, et ses jeunes élèves présenteront la chanson-thème « Créole, c'est langue nous ». tout au long du mois d'octobre, plongez dans une expérience culturelle inoubliable avec des conteurs créoles, des auteurs créoles, des artistes et leaders créoles sur les 5 continents. Mois d'octobre, mois du créole 2024. Des performances artistiques, des expositions et des discussions inspirantes sur CUT 89,5 FM et chez nos partenaires au KEPCA et le Mois du Créole de Montréal à retrouver sur moisducréole.ca, kepca.com ou popourichaud.com. Mois d'octobre, Mois du Créole 2024. Une programmation riche, un temps fort, convivial, généreux, inventif et revendicatif, accompagné de belles rencontres. Retrouvez la belle programmation sur moisducréole.ca, kepca.com ou popourichaud.com.
Mes amis, ça fait bien longtemps, moi qui t'ai payé, moi.
Bonjour tout le monde, moi c'est Michel Siloska, entrepreneur, animatrice, porte-voix 23e édition, Moi Créole, Kepka, organisé sous thème Créole, c'est langue nous, pas quitter l'allée. Moi, je viens inviter nous dans le lancement Gros Wumble ça, qui va le dérouler mardi 1er octobre dans Centre Fille. Reine Chantelle soirée ça, c'est Abgaya Michel, une chanteuse qui t'est jamais juré émission La Voix dans TVA. La bien 9 grands musiciens avec lui. Yo pral interpréter pour nous succès musical qui sorti dans groupe Tankou, Les Difficiles de Pétionville, Mono Charlemagne, Toto Bicente, Kassav, Bookman Experience, Mika Ben, chanteuse Rebecca Jean et Lev Lio à Platou. $50 avant 1er octobre, 60 dans pote. Rendez-vous mardi 1er octobre, 6h30 dans Centre Fille, 315 rue Saint-Paul. Al réserver ticket nous dans pointdevente.com, info 514
750-8800.
Je suis la langue française, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que l'on me parle et c'est parce que l'on m'écrit. Je lègue 26 lettres pour l'art et la poésie, pour styliser les romans, les mots doux et les scénarios. Sers-toi de moi pour te battre et protéger les valeurs, créer la connivence entre auditeurs et locuteurs, parce que la diversité éloigne la monotonie. Mali, Mississippi, Canada, Cambodge, Haïti, j'accompagne les nobles causes de façon pacifique. Je suis rythmique, philosophique, pas si vite, libre, évolutif, la langue vit, révolte, danse, et le livre des livres et livre des livres de pensée. Je cohabite avec les dialectes et d'autres langues. Ma structure grammaticale est un rempart à la novlangue. Je suis le développement durable, l'exemple d'écologie. Je suis la langue française, je suis la francophonie.
Usted está escuchando
Terre d'Alliance,
Tierra de Alianza.
C'était Terre d'Alliance
sur France Inter. Con Alexandre Hérault.
Oui, bonjour. Toronto, c'est les gens qui y habitent.
Pourquoi tu filmes? Tu enregistres en direct maintenant?
Toronto change au fur et à mesure que la population de la ville change. Et
comme ça,
pourquoi pas?
Son identité, c'est la culture et les désirs de devenir de chacun qui y habite.
On est live sur Twitter ou quoi?
Il paraît que si vous tendez bien l'oreille, vous pouvez entendre parler plus de 120 langues à la fois sur le macadam de Toronto. Pas étonnant, si l'on considère ce que nous allons pas manquer de faire pour cette dernière étape de notre tour du monde estival au sein des alliances françaises, si l'on considère que le monde s'est donné rendez-vous à Toronto. Toronto, cette mégapole de 5 millions de citizens, est la capitale économique de l'immense Canada. Le Canada, c'est le second plus grand pays de la planète après la Russie. 10 millions de kilomètres carrés partagés par 36 millions d'habitants et autant d'élans, de caribous ou d'orignaux certainement.
Terre d'Alliance, Alexandre Hérault, sur France Inter.
Bonjour et bienvenue à Poporichaud, votre magazine phare de la francophonie qui célèbre sa 38e saison sur CUT 89,5 FM, la radio de l'Université de Toronto. Vos commandants de bord, DJ Devera et Eric Tader, pour nous écouter où que vous soyez dans le monde, www.popourichaud.com. Cette émission est réalisée en partenariat avec le Centre de recherche interdisciplinaire sur les pratiques éducatives, sociales et langagières des francophonies en Ontario, au Canada et dans le monde. Le CREFO, Université de Toronto. Plongé au cœur des francophonies d'ici et d'ailleurs, grâce à ses podcasts, Quoi de neuf à les cafés du CREFO et les conférences gratuites en ligne ou en personne. Pour rester à l'affût des activités du CREFO, cliquez crefo.ca ou popourichaud.com. Le CREFO est situé au 252 rue Bloor-Ouest, métro Saint-George. Notre partenaire, Sophie Franc, organisme communautaire sans but lucratif, créé par des femmes immigrantes francophones vivant dans la région du Niagara et Welland, vous invite à participer à ces projets dédiés aux immigrants francophones tout au long de l'année. Sophie Franc, à retrouver sur sophiefranc.org. Et le prochain rendez-vous de Sophie Franc, c'est le 22 septembre. Sophie Franc vous invite à son Assemblée Générale. 22 septembre à 15h en mode virtuel. Retrouvez le raccourci du lien de l'Assemblée Générale annuelle du Sophie Franc du dimanche 22 septembre sur notre site web popourichaud.com ou sur conférence.sophiefranc.org. conférence.sophiefranc.org. On espère vous retrouver nombreux dimanche 22 septembre dès 15h. Et notre amie de toujours, Marceline, fondatrice de Ciné Franco, nous réserve de vrais petits bijoux lors de son festival annuel grand public qui aura lieu du 1er au 17 novembre au cinéma Carlton, 20 rue Carlton, métro Collège. La thématique choisie de cette année, la singularité. Cette 27e édition nous offre plusieurs longs et courts-métrages français, québécois, des films acclamés à Cannes et dans d'autres festivals. Fiction, comédie, drame et des sujets d'actualité tels que le déracinement, les réfugiés, l'amour et des questions identitaires. Émotion, rire et de belles rencontres au rendez-vous. Et à surveiller des projections de films de cinéastes indépendants franco-canadien du FRIC. FRIC, qui veut dire le Front des réalisateurs indépendants du Canada. Vous serez enchantés par la beauté de leurs œuvres. Entre-temps, chaque dimanche, je vous donne rendez-vous, madame, monsieur, à découvrir en exclusivité tout au long du mois d'octobre sur CUT 89,5 FM des films à l'affiche du prochain festival de Ciné Franco. 10 paires de billets disponibles pour les membres de Popourichaud. Je dis bien, 10 paires de billets disponibles pour les membres de Popourichaud et CUTFM. Le Festival Torontois Ciné Franco, en partenariat avec CUT 89,5 FM et Popourichaud, revient du 1er au 10 novembre au Cinéma Carlton, à découvrir sur cinéfranco.com et popourichaud.com. Et la maison d'édition Prise de Parole nous présente ses nouveautés littéraires, des nouveaux chefs-d'œuvre qui nous font voyager dans l'univers des écrivains francophones, queer et autochtones, à découvrir sur notre site ou sur prisedeparole.ca. Popourichaud, liberté, égalité, actualité. Popourichaud, CUT 89,5 FM présente une édition spéciale. Dans la première heure, la journée des Franco-Ontariennes et des Franco-Ontariens, célébrée le 25 septembre. Et dans la deuxième heure, la langue française à l'honneur à Villers-Cotterêts. La France accueillera les 4 et 5 octobre le 19e sommet de la francophonie. Un événement majeur compte tenu de ses enjeux diplomatiques, économiques et culturels pour les 88 États et gouvernements membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Montage et mixage, DJ Devora. Production et animation, votre serviteur, Eric Adair. Cette émission est réalisée en partenariat avec Radio France Internationale, France 24, TV5 Monde.
Attention, attention, la grande famille du Nouvel An. Nous reconnaissons que nous sommes sur les terres des premiers peuples de l'ensemble de cette vaste province que nous appelons aujourd'hui l'Ontario, qu'on retrouve sur l'île de la Tortue.
On sait que les francophones ont joué un grand rôle à la croissance du nord de l'Ontario, ou le Nouvel Ontario, comme nous l'avons déjà appelé. De la traite des fourrures à la population tout au long de la voie ferrée, à l'industrie forestière ainsi que l'industrie minière, les franco-ontariennes et les franco-ontariens établissent leur propre culture. Mais, en 1912, le règlement 17 voulait éteindre l'apprentissage et même la communication française. Grâce au courage de la communauté franco-ontarienne, l'apprentissage a continué et a créé le Collège du Sacré-Cœur à Sudbury, qui est maintenant École secondaire du Sacré-Cœur, une de nos propres écoles. Après plusieurs manifestations et mouvements communautaires, l'identité franco-ontarienne devient concrète. Nous établissons des institutions éducatives francophones, des organisations artistiques, des chaînes de radio et de télévision et des maisons d'édition. Finalement, en 1975, notre drapeau franco-ontarien a pris vol.
Mon beau drapeau des Français de l'Ontario.
La grande famille du Nouvel-On. C'est avec fierté et un respect qu'on porte les couleurs vertes et couleurs blanches pour célébrer le jour des franco-ontariennes et franco-ontariens. Parlons notre langue.
Et chantons notre langue.
Et partageons notre langue avec les uns.
Et les autres.
Car, à plusieurs, nous sommes un.
Love.
Spéciale. Nous célébrons la journée spéciale le 25 septembre dédiée à tous les franco-ontariennes et les franco-ontariens. Où serez-vous le 25 septembre? Qu'est-ce que le jour des franco-ontariens et des franco-ontariennes? Le 25 septembre est d'abord l'anniversaire du premier lever du drapeau franco-ontarien qui a eu lieu en 1975 à l'université de Sudbury, dans le nord de la province de l'Ontario. Ses deux créateurs, Michel Dupuis et Gaëtan Gervais, ont créé un drapeau représentatif de son peuple. Le tri pour l'Ontario, le lys pour la langue française, le vert pour les étés, le blanc pour les hivers. Le drapeau est devenu symbole officiel de la province en 2001. Mais c'est seulement en 2010 que le 25 septembre est devenu le jour des franco-ontariens et des franco-ontariennes. Le 25 septembre est une occasion parfaite pour souligner la présence des franco-ontariens dans nos communautés. Et oui, malgré les efforts des nombreux organismes, conseils scolaires, médias francophones engagés dans la promotion des services en français, il reste beaucoup à faire. En effet, des milliers d'anglophones, et oui, y compris des immigrés francophones, qui arrivent de plus en plus de l'Afrique, des Antilles, sont toujours surpris quand je leur parle de la francophonie en Ontario. Et oui, et pire encore, au Québec, en France et en Belgique, la communauté ou les communautés, et surtout les diversités francophones de l'Ontario, sont toujours méconnues. Je ne veux en aucune façon pointer du doigt qui que ce soit, mais après 45 ans en Ontario, et pour avoir voyagé à travers la province de l'Ontario, je peux vous dire que je suis frustré, car il y a une panne d'idées, de créativité et manque d'intérêt de la part de beaucoup de ces ténors franco-ontariens qui ne voient pas l'urgence de réclamer la place du fait français. Eh oui, dans nos services publics, dans les médias, les transports en commun. Eh oui, y compris à la ville de Toronto, eh oui, la langue française est timidement reconnue, alors qu'il y a des représentants francophones qui sont là pour nos intérêts. Eh oui, où en sont les accomplissements de ce comité de français à l'hôtel de ville de Toronto? Où en sont les résultats, les bonnes pratiques? Et à ne pas oublier, l'histoire de la présence française en Ontario débute avec les explorations du jeune Étienne Brûlé en 1610 et l'établissement de la première mission jésuite à Sainte-Marie au pays des Hurons en 1639. Les Français sont les premiers Européens à révéler les ressources naturelles et économiques du territoire qui deviendra l'Ontario et à nouer des alliances avec les autochtones. Cependant, à la suite de guerres avec les Iroquois et les Britanniques, les positions françaises s'affaiblissent et la France cède à l'Empire britannique toutes ses colonies d'Amérique du Nord avec le traité de Paris de 1763. Ça, c'est pour la petite histoire. Après plus de 400 ans de présence en Ontario, les franco-ontariens demeurent vigilants. Il ne faut pas baisser les bras. La présence de nombreux immigrants francophones qui ont choisi l'Ontario comme terre d'accueil contribue certes énormément à l'essor et à l'avancement du fait français en Ontario, au Canada, mais sont-ils reconnus pour leur juste valeur et leurs compétences? Je vous invite, madame, monsieur, à vous plonger dans l'histoire avec un excellent documentaire réalisé en 2013 lors du 100e anniversaire du quotidien du journal Le Droit d'Ottawa. Un documentaire qui fait revivre 100 ans de l'histoire tumultueuse des Canadiens français de l'Ontario devenus franco-ontariens. Animation et entrevue, Ginette Graton. En voici quelques extraits. Le 25 septembre, c'est l'anniversaire du premier lever du drapeau franco-ontarien. Je vous souhaite une heureuse journée des franco-ontariens et des franco-ontariennes sur CUT 89,5 FM, la radio qui vous mène jusqu'au bout du monde.
Il y a une prise de conscience très forte des francophones qui dit « assez, c'est assez ».
Les États généraux du Canada français, mon Dieu, quelle expérience.
On est quoi? Ça fait quoi de nous, ça, que le Canada français n'existe plus? Il faut pas oublier d'où on vient. On voulait nous enlever un acquis. On voulait nous enlever notre hôpital.
C'est pas une lutte comme les autres. Ça va être gros, cette affaire-là.
Nous sommes à la fin du 19e siècle. Les Canadiens français vivant sur le territoire ontarien sont nombreux. Ils forment d'importantes communautés, principalement dans le sud et dans l'est de la province, et de plus en plus dans le nord. Mais il y a dans l'air une tension qui monte en flèche.
Quand on pense qu'en 1870, il y avait à peu près 75 000 Canadiens français en Ontario. En 1910, donc 40 ans plus tard, ils sont au nombre de 200 000. Leur nombre a triplé, ce qui fait que ça crée une crainte énorme chez les populations anglophones, particulièrement la majorité protestante. Pas seulement en Ontario, on vit la même chose en Nouvelle-Angleterre, où il y a plus d'un million de Canadiens français qui émigrent en Nouvelle-Angleterre. Et partout, on a une peur, une réaction de hordes barbares qui sont en train d'envahir cette portion de l'Empire britannique qu'est l'Ontario.
À partir du moment, donc, au 19e siècle, où les tourmentes linguistiques commencent à être déclenchées, c'est une communauté qui a des assises institutionnelles, sociales, qui s'organisent de mieux en mieux, qui a une élite qui prend la parole, qui intervient dans les débats politiques, donc des assises très fortes.
C'est dans ce contexte-là que des leaders, des chefs canadiens-français de l'Ontario, particulièrement et presque uniquement d'Ottawa, décident de faire un grand congrès pour voir comment ils vont s'organiser en 1910 contre cette montée francophobe et anticatholique.
On attendait quelques centaines de participants, il y en a eu à peu près 1200, donc ça a été un immense congrès qui a attiré des gens de partout en province. Ils ont créé à ce moment-là une association devenue très importante, l'ACFEO, qui est l'Association canadienne-française d'éducation d'Ontario, l'ancêtre de ce qui va devenir à la fin des années 1960 l'ACFO. On projette également de mettre sur pied un journal quotidien pour défendre encore une fois les intérêts des franco-ontariens.
En même temps, le pape Pie X exhorte les membres du clergé à s'impliquer dans leur milieu avec les laïcs en utilisant les moyens modernes les plus efficaces. Cette action catholique, quand elle s'applique à la presse, se nomme le mouvement de la bonne presse.
Et de ce mouvement de la bonne presse, encouragé d'ailleurs par le pape Pie X en 1907, ils convainquent le clergé de Québec, ils convainquent les gens de Montréal, les gens d'Ottawa, qu'il faut créer des journaux.
Et cette ACFEO va devenir très rapidement, dès 1912, au moment du déclenchement de la crise du règlement 17, finalement les quartiers généraux de la résistance canadienne-française.
Le gouvernement ontarien prend des mesures pour mettre fin à cette menace et en 1912, il adopte le règlement 17. Ce règlement vient bannir l'usage du français comme langue d'enseignement et de communication dans les écoles de l'Ontario.
Dès septembre 1912, l'ACFEO envoie une lettre collective à tous les conseillers scolaires francophones, canadiens français de la province, leur demandant, ou enfin leur ordonnant un peu de choses près, si on lit le texte, c'est assez quand même autoritaire comme ton, de ne pas respecter le règlement 17, de continuer comme si ça n'existait pas.
Bref, le peuple canadien-français de l'Ontario semble s'épanouir. Un des changements fondamentaux que connaît la francophonie en Ontario, changement qui en suscitera plein d'autres, est le multiculturalisme.
Le multiculturalisme est arrivé, peu de temps après l'adoption de la loi sur la langue officielle de 69. Pour les minorités francophones, c'est extrêmement problématique. Le multiculturalisme tel qu'il est conçu par la classe politique fédérale à ce moment-là, au moment où on a adopté le bilinguisme officiel, on pouvait croire, en milieu francophone en Québec, que c'était vraiment, on parlait de bilinguisme, mais que c'était vraiment la reconnaissance du biculturalisme au Canada, que c'était vraiment la reconnaissance, d'une certaine façon, de la thèse des deux peuples fondateurs.
Je suis arrivée d'Haïti en 1972, et parce qu'à l'époque, on parlait beaucoup de multiculturalisme, on savait qu'on acceptait les immigrants, qu'on pouvait arriver et qu'on acceptait tout le monde.
On réalise dans les années à peu près 74-75, là, que la société, elle, elle continue à évoluer. Elle n'est plus la même, elle n'est pas statique. Alors, une des choses qui fait qu'elle n'est pas statique, c'est que l'immigration augmente. Et l'immigration de gens francophones, qui arrivent de pays francophones, ou parlant français, qui arrivent au pays.
Il n'était pas question pour moi d'aller vivre dans une province où on ne parlait que l'anglais, ou seulement un peu de français. J'ai appris qu'en Ontario, je pouvais vivre en français et surtout que mes enfants pourraient étudier en français. Alors, ça a été toute une révélation. Quand je suis arrivée en Ontario, je me suis dit, écoute, la première chose à faire pour comprendre la culture de l'Ontario, c'est de faire du bénévolat. Et j'ai commencé tout de suite à faire du bénévolat dans une école.
Ces gens-là ne se sentent pas à l'aise dans la manière que notre système d'éducation en langue française est organisé en Ontario.
La nouvelle pluralité de la communauté fait en sorte que les systèmes scolaires doivent s'adapter en ouvrant plus d'écoles non confessionnelles.
Disons que maintenant, il y a une plus grande ouverture. Si je parle du domaine de l'éducation où j'œuvre actuellement, je peux dire que maintenant, les enseignants sont plus ouverts à comprendre les élèves qui viennent d'ailleurs, à comprendre les enseignants qui viennent d'ailleurs. Il y a beaucoup de travail encore à faire. Je sais que le chemin peut être long, mais les changements ne se font pas du jour au lendemain. Il faut avoir de la patience et continuer à sensibiliser les gens à l'interculturel, aux autres cultures, afin que les uns comprennent les autres et que tout le monde puisse s'asseoir autour d'une table et vivre ensemble.
Le projet identitaire des Canadiens français de l'Ontario qui vient d'être enclenché avec la rupture du Canada français connaît des défis de taille.
Là, les Franco-Ontariens semblent privés de leurs assises culturelles dans le discours officiel du gouvernement fédéral, semblent privés de leurs assises mémorielles sur lesquelles ils comptent pour justifier leurs revendications, pour justifier leur prétention à l'autonomie institutionnelle. Il faut que ce soit fondé non seulement sur une simple réalité ou logique démocratique, mais sur, finalement, une histoire, un passé, une expérience collective commune.
Il y avait une mécompréhension. Il y avait aussi de la part de la communauté francophone des souches, je me rappelle, c'était « Vous êtes là, nous sommes les pourvoyeurs des services et vous êtes les usagers des services ». C'est que beaucoup d'organismes des communautés ethnoculturelles rejetaient. Donc c'était une participation et une égalité des statuts dans la francophonie que ces communautés-là recherchaient. Et il y a eu beaucoup de discussions.
À partir de la fin des années 80, la question du multiculturalisme se pose autrement. Parce que là, depuis quelques années, il y a des communautés francophones installées en Ontario qui sont issues des grands mouvements migratoires. C'est un phénomène qui est relativement nouveau, qui va poser aux Franco-Ontariens un défi, celui de l'intégration et de l'ouverture à l'altérité, au pluralisme culturel.
Je me rappelle quand je suis arrivée, il y avait le terme franco-ontarien. Donc, il y avait un « nous » exclusif, alors que maintenant on parle de francophonie, puis on parle de francophonie dans toute sa diversité. Ce que je remarque aussi, c'est qu'à l'époque, la francophonie s'organisait autour des organismes communautaires. Donc, celui qui ne faisait pas partie des organismes, qui ne militait pas à l'intérieur des organismes, forcément ne portait pas la cause.
Alors là, ça pose la question très difficile et parfois très douloureuse. Ça va se vivre de façon très douloureuse au tournant des années 90, pendant toute la durée des années 90. Comment intégrer sans renier une expérience historique et une mémoire?
Qui est francophone? Pendant de nombreuses années, la question suscite des déchirements dans la communauté. Finalement, en 2012, une définition inclusive est adoptée par le gouvernement ontarien.
En ayant les DIF, la définition inclusive de la francophonie, il y a un grand pas qui a été fait par la communauté francophone de souche. Parce que quand on a cette définition inclusive de la francophonie ou le DIF, on considère comme francophone aussi ceux qui ont la langue française comme langue d'usage, sans que cela soit la langue maternelle, et ceux qui parlent, qui connaissent la langue française. Donc c'est vraiment une ouverture absolument phénoménale.
Les années 1980 apportent de nombreux changements au quotidien le droit. En 1983, les Oblats le vendent au groupe Unimédia, puis en 1987, il est acheté par le groupe Hollinger. Le droit est désormais une entreprise commerciale. En février 1988, une grève des membres du syndicat des ateliers du journal et des employés de bureau éclate et dure 11 semaines. C'est aussi à ce moment qu'il passe d'un grand format à un format tabloïd, que le fonctionnement et la rédaction sont informatisés, que les opérations qui ne sont plus rattachées directement au journalisme passent à des tierces parties. De plus, avec 75% de lecteurs au Québec, le droit pourra-t-il rester fidèle à sa mission et continuer d'être un acteur de la communauté franco-ontarienne? Le test arrive en février 1997, alors que la Commission de restructuration des services de santé d'Ontario, avec pouvoir exécutoire, décide de fermer l'hôpital Montfort, le seul hôpital francophone d'Ottawa, construit avec les dons des franco-ontariens en 1953.
J'étais le journaliste qui a couvert l'annonce par les autorités de l'hôpital Montfort, quand ils ont reçu la nouvelle comme quoi qu'ils allaient être intégrés dans un grand hôpital. Il y avait Gérald Savoie, qui était directeur général d'hôpital à ce moment-là, et Michel Gouvernicole, qui était la présidente du conseil d'administration, et tout le monde, cette conférence de presse impromptue, on vient tout juste d'avoir la nouvelle, on avait ramassé quelques dizaines d'employés dans le lobby de l'hôpital à l'époque, et puis on avait annoncé ça. Comme journaliste, on assiste à toutes sortes de manifestations, de protestations dans les rues. On vient habitué de voir des manifestations et on vient qu'à savoir un peu doser l'importance de toutes ces choses-là. Et la plupart de toutes les manifestations que l'on voit, ça porte pas à conséquence. Mais quand j'étais là et je voyais, et ça c'était vraiment des gens ordinaires, hein? C'était pas des militants anti-ci, anti-ça qui manifestaient, c'était des gens ordinaires, c'était des infirmiers, des infirmières, certains patients, hein? Il y avait des médecins, des toutes sortes de gens qui travaillent à l'hôpital, qui étaient là, c'était palpable, il y avait quelque chose là, et je me souviens avoir eu la réflexion, je sais même pas si je l'ai partagé à quelqu'un, de dire... Mike Harris, il réalise pas dans quoi il vient de se mettre les pieds. Parce que ça vient de les toucher. Il vient de toucher une corde sensible et ça passera pas.
Monsieur Gérald Savoie avait dit, bon, mais là, tout ce qu'on peut espérer, c'est que la communauté se rallie derrière nous. Puis, donc c'était un peu mon vide. Du lendemain, j'avais écrit le texte seul. La réaction des gens à la nouvelle. Et de là, le droit baptisé SOS Montfort. Les gens de Montfort ont emprunté ce titre du droit pour nommer leur mouvement.
En 1997, moi, j'arrivais de la Floride et on m'a demandé de prendre la présidence de SOS Montfort. C'était pas une... Dès le premier soir, j'ai appelé mon frère en Papouasie pour lui dire « Gérard, je veux que tu pries parce que c'est pas une lutte comme les autres. Ça va être gros, cette affaire-là. »
Quand, en 97, arrive la décision sur Montfort, il faut immédiatement qu'on prenne des décisions de s'impliquer dans le mouvement pour la survie de l'hôpital. Et ça impliquait deux choses. des positions éditoriales, une couverture journalistique, mais également l'appui du journal à la cause qui est devenue SOS Montfort.
Le droit a même commencé avant nous autres, SOS Montfort. Le premier matin, il avait une pétition que les gens pouvaient signer, pouvaient reproduire, apporter à l'ouvrage pour faire signer leurs confrères, leurs consœurs. Et ils ont fait cette pétition-là s'est promenée jusqu'avec nos gens qui partaient pour la Floride, partout.
En protestation, un grand ralliement est organisé au Centre municipal d'Ottawa le 22 mars 1997. Plus de 10 000 franco-ontariens sont au rendez-vous.
On a ramassé 10 000 francophones en 3 semaines. On voyait vraiment, et ce sera dans quelques jours à Embrun. C'était la masse. Pour une fois, ce n'était pas juste des présidents et puis des gens qui avaient, vous savez, des gros postes et qui écrivaient des lettres et puis qui faisaient des choses dans la communauté. Non, c'était la communauté qui se prenait en main.
C'est Maurice Bélanger, je me souviens, on regardait tout ça, les spectacles, puis Maurice Bélanger était à côté de moi, puis... J'ai dit, qu'est-ce que tu en penses, monsieur le député? Je pense que j'ai jamais été si fier d'être franco-ontarien. Puis, je me souviens de lui avoir dit, moi non plus. On est juste resté là à regarder le spectacle, c'était hallucinant.
Il est prévu que les services offerts à Montfort soient transférés dans un établissement bilingue.
Je les ai rencontrés dans une réunion où on voulait nous faire passer à l'hôpital général, dans un petit secteur quelconque. Et ils voulaient qu'on ferme Montfort pour aller là. Puis là, vous comprenez, j'aurais dit, bien d'abord, où sont les négociateurs de l'hôpital général? Il n'y avait pas personne pour parler de l'hôpital général qui nous laissait ces lits-là. Puis je leur ai demandé, dites-nous-les combien.
Montfort décide de contester la décision de la commission devant les tribunaux.
Là, j'ai vu aussi des gens très, très bien qui sont venus à moi et qui ont dit, Gisèle, tu pensais combien ça avait pris de temps pour le règlement 17? Bien là, j'ai les deux bras m'ont tombé, j'ai dit, bien écoutez les gars, là. Le règlement 17, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas rien, il n'y avait pas de journaux, il n'y avait rien, là. Ça, on commençait. Imaginez-vous, aujourd'hui, ça va se régler en très peu de temps. Ah, ils ont dit, tu n'as pas des années. Ouais, bien, je vous le dis d'avance, moi, ça va se régler avant 7 ans. Puis ça s'est réglé en 3 ans.
Pour certains, la position éditoriale et la couverture de la saga Montfort posent un problème d'éthique.
Et je crois que dans certains cas, il a usé de sa liberté de façon peut-être moins conforme à l'éthique journalistique. Et je vais prendre le cas de Montfort, que je connais mieux, où il y avait vraiment, où le droit était devenu un peu l'organe ou le vecteur de la relation publique ou de la campagne de communication de cet organisme-là. Et certaines recherches ont montré que les autres points de vue dans la communauté francophone n'étaient pas exposés dedans. Il y avait une sorte d'homogénéité du message. Il y avait des gens qui n'étaient pas nécessairement d'accord pour appuyer cette lutte-là et ils n'ont pas eu leur mot à dire.
Il ne faut pas oublier d'où on vient. On voulait nous enlever un acquis. On voulait nous enlever notre hôpital. C'est insensé. Si, par exemple, le ministre de l'Éducation avait dit, bon, vous avez vos écoles de langue française, mais dorénavant, on vous les enlève et... Ça va être des écoles bilingues partout. Est-ce que le droit aurait resté sur les côtés, les bras croisés, puis ils perdent leur école de langue française? Voyons donc, fallait se battre. Fallait appuyer les franco-ontariens. Fallait avoir la pétition qui récoltait des 100 milliers de noms. Il fallait tout faire ça. Parce qu'on nous enlevait un acquis, parce qu'on s'attaquait directement à la communauté franco-ontarienne. Et le droit étant un journal fondamentalement franco-ontarien, devait se battre, devait lutter.
Le fait d'avoir des services en français, c'était pas toujours sûr que c'était les meilleurs services de soins de santé qui étaient fournis en français. Peut-être que les meilleurs auraient été fournis dans une institution bilingue. S'il y avait ce débat-là que certains médecins ont avancé. Ces différentes opinions, on peut dire, oui, il faut la cause le vaut, la fin justifie les moyens. Et d'autre part, on peut se demander, est-ce que le meilleur service qu'on rend pas à une communauté, c'est de faire en sorte qu'elle soit reflétée dans notre journal.
ceux qui nous ont reproché et qui nous reprochent encore qu'on soit allé trop loin dans l'implication, qu'on soit allé trop loin dans le rôle de s'embarquer comme un acteur, ben à ceux-là, je vais leur dire que le droit est né d'un combat, puis le droit s'est révélé dans un autre combat, et le droit sera toujours présent quand ce sera le temps de se lever.
Est-ce que Montfort aurait gagné si... si le droit avait pointé de la partie, si le droit c'était pas lié à la lutte? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que le droit était le seul quotidien qui était aussi loin dans sa couverture. La lutte, il faut pas oublier, a duré 5 ans. Mais je pense qu'il n'y a pas une journée pendant ces 5 ans-là que le droit n'avait pas un texte sur Montfort.
Être franc-ontarien. 100 ans de lutte au quotidien. Excellent documentaire réalisé en 2013 lors du 100e anniversaire du quotidien Le Journal Le Droit, Ottawa. À réécouter sur notre site popourusho.com. Journal Le Droit qui défend les causes des franc-ontariennes, franc-ontariens. Pour terminer en beauté, madame, monsieur, je vous laisse avec un petit montage, j'espère qu'on aura du temps, de certains artistes franc-ontariens que j'aime bien, qui font honneur aux franc-ontariens, franc-ontariennes sur la scène locale et internationale. Nous entendrons, j'espère que nous aurons le temps, dans l'ordre Pure Laine et Colorée, une chanson que j'aime bien, que vous avez entendue depuis quelques semaines maintenant. C'est un documentaire qui met tout d'abord en lumière les personnages historiques de plusieurs origines ethniques et culturelles qui ont bâti la culture franco-ontarienne. Le flot franco de la région d'Ottawa, notre ami de toujours, longue vie au bonheur, il fait honneur à la chanson francophone de l'Ontario. Fléau DiCaprio et le grand et l'unique DJ que j'aime bien, franco-ontarien, DJ Unipied, un remix. Bonne journée des franco-ontariennes et des franco-ontariens, célébrés le 25 septembre. Ciao!
Depuis plus de 400 ans, ici au pays, nous sommes l'écho d'un peuple fier et tenace. L'écho d'une magnifique histoire, pure laine et colorée. En 1610, un jeune Français de 17 ans, nommé Étienne Brûlé, demande à Samuel de Champlain d'aller vivre parmi les Autochtones. Avec les Algonquins, Étienne remonte les rivières de l'Ontario en canot d'écorce jusqu'au grand lac des Hurons. Étienne Brûlé est le premier Européen à aller habiter avec les Premières Nations. Il deviendra le père de la nation métisse en Ontario. À la même époque, on se retrouve à Port-Royal en Acadie. Un autre interprète, mais celui-ci d'origine africaine et portugaise, a bâti avec Champlain cette première colonie de la Nouvelle-France. C'est Mathieu d'Acosta. Mathieu crée le premier club culturel au Nouveau Monde, l'Ordre de Bontemps. Au soir de sa vie, le grand Champlain a confié à ses amis algonquins « Un jour, nos garçons marieront vos filles, ils ne seront plus qu'un seul peuple. » Et c'est à Québec que le petit Olivier Lejeune, venu des Antilles et du Madagascar, ira vivre avec la famille Hébert-Couillard, la première famille canadienne-française purlaine. Olivier donnera naissance au premier franco-antillais africain. Aux côtés des métis tels Madeleine Nicolet, les fameuses filles du roi, dont une Allemande, une Hollandaise et une Brésilienne, sont venues de France pour donner naissance à de grandes familles canadiennes-françaises. Ce sont ces femmes courageuses, dont Madeleine de Roybon, qui unifieront notre langue française ici au Canada.
Comme Freddy Mercury dans Queen, les gens vont parler, je suis pas désolé. potentiel. En toute humilité pour ma communauté, je suis essentiel. Le swag d'un top modèle, au poste toujours fidèle. C'est moi que je sais, faut accepter que je suis un cadeau du ciel. Yeah. Non, je ne suis pas kaki, mais je sais que je suis béni. Si je suis encore ici, je ne prends rien pour acquis, il faut que je m'apprécie. Faut prendre goût à la vie, mais de côté tous ces soucis. Faut s'honorer et se dire merci. So aujourd'hui, je fais qui je suis. Sans gêne, it's all about me.
Chaîne d'information continue. 430 journalistes, 35 nationalités, 160 bureaux de correspondants à travers le monde. Une présence mondiale. 355 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays. 55 millions de téléspectateurs regardent la chaîne chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 31%. France 24, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 18 millions de visites sur France24.com et 40 millions de vidéos vues en ligne. France 24 est numéro 1 sur YouTube et ses 35 millions d'abonnés sur Facebook et Twitter font d'elle la première chaîne française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus à nous faire confiance. Merci.
Et oui, le Festival Burlesque de Toronto est de retour du 3 au 6 octobre au club mythique de Toronto, El Mocambo. Plus de 50 artistes burlesques, drag queens et cabarets de toute l'Amérique du Nord, avec 4 vitrines sensuelles de glamour, d'humour et de performance de haut calibre, ancrées dans des messages de diversité, d'inclusion et de positivité corporelle. Allez, je vous donne rendez-vous sous les palmiers au Festival Burlesque de Toronto du 3 au 6 octobre au El Mocambo Club dans une ambiance chic et sensuelle. Et nos partenaires du Festival Burlesque de Toronto offrent 2 paires de billets à des heureux chanceux pour la soirée du lancement le jeudi 3 octobre et pour le brunch du dimanche le 6 octobre. Écrivez-moi immédiatement à popourri@cut.fm. Plus de détails sur torontoburlesquefestival.ca ou popourrishow.com. Alors, on danse. Eh oui, Popourri Show et CUTFM remercient chaleureusement le Comité international pour la promotion du créole et de l'alphabétisation, KEPCA, et le Mois du créole à Montréal pour les 2 prix de reconnaissance dans le cadre de nos émissions spéciales Mois du créole édition 2022. Et oui, nous sommes extrêmement honorés de recevoir cette reconnaissance. Le KEPCA, un organisme à but non lucratif légalement constitué, qui a vu le jour à Montréal le 13 avril 1997, a pour mission de défendre et de mettre en valeur les langues et les cultures créoles par les arts, l'éducation populaire, le partage et la sensibilisation. Il contribue au rayonnement et à l'enrichissement des patrimoines culturels du Québec et du Canada par la diffusion des littératures créoles et africaines. Il aide les jeunes créolophones canadiens et québécois à découvrir leurs identités. Il crée le pont entre les créolophones du Québec, des Caraïbes, de l'océan Indien et des diasporas. Il développe des échanges entre les auteurs, les artistes, les chercheurs et les amis de la langue créole par l'organisation de multiples activités hautement culturelles et artistiques. Toute l'équipe de la radio dit haut et fort merci en pile à KEPCA et le Mois du créole à Montréal. Pour tout savoir sur ces prix de reconnaissance, popourrishow.com. Au mois d'octobre, vivez au rythme des cultures créoles du monde sur CUT 89,5 FM Toronto. Et oui, le Mois du créole revient dès le 29 septembre sur CUT 89,5 FM en partenariat avec le Comité international pour la promotion du créole et de l'alphabétisation, le KEPCA, la 23e édition Mois du créole à Montréal et nos médias partenaires. Le Mois du créole sur CUT 89,5 FM et au KEPCA est devenu un rendez-vous incontournable de toutes les cultures créoles dans et au-delà de leurs frontières géographiques. Le 1er octobre, le KEPCA vous invite à la soirée d'ouverture du Mois du créole au Centre Phi, 315 rue Saint-Paul à Montréal, pour célébrer la richesse et la beauté de la culture créole avec un spectacle de lancement inoubliable. Au programme, un groupe de 9 musiciens talentueux sous la direction de Gaïa. L'artiste vedette du Mois du créole, Rebecca Jean, et ses jeunes élèves présenteront la chanson thème « Créole, c'est langue nous ». Tout au long du mois d'octobre, plongez dans une expérience culturelle inoubliable avec des conteurs créoles, des auteurs créoles, des artistes et leaders créoles sur les 5 continents. Mois d'octobre, Mois du créole 2024. Des performances artistiques, des expositions et des discussions inspirantes sur CUT 89,5 FM et chez nos partenaires au CAPCA et le Mois du Créole de Montréal, à retrouver sur moisducréole.ca, capca.com ou popurucho.com. Mois d'octobre, Mois du Créole 2024. Une programmation riche, un temps fort, convivial, généreux, inventif et revendicatif, accompagné de belles rencontres. Retrouvez la belle programmation sur moisducréole.ca, capca.com ou popurucho.com.
Mes amis, ça fait bien longtemps, moi quitté pays, moi.
Bonjour tout le monde, moi c'est Michose Filosca, entrepreneur, animatrice, Pot-Bois 23e édition, moi créole, Kepka organisé sous thème Créole, c'est langue nous, pas quitter l'allée. Moi vin invité nous dans le lancement Gros Wumble ça, qui va le dérouler mardi 1er octobre dans Centre Fi. Reine chanterelle soirée ça, c'est Abgaya Michel, une chanteuse qui t'est chamé jury émission La Voix dans TVA. L'a bien 9 grands musiciens avec lui. Yo pral interpréter pour nous succès musical qui sorti dans groupe Tankou, Les Difficiles de Pétionville, Mono Charlemagne, Toto Bissette, Kassav, Bookman Experience, Mika Ben. Chanteuse Rebecca Jean à Clevelio à Plateau. $50 avant 1er octobre, 60 dans pote. Rendez-vous mardi 1er octobre, 6h30 dans Centre Fi, 315 rue Saint-Paul. Al réserver ticket nous dans pointdevente.com, info 514-750-8800.
Pour avant passer, pour tout coudou crasé, même l'enjambé de l'eau, quel que soit côté lié, créole, c'est long nous.
Ici, c'est
toujours numéro 1. Numéro 1 en Guadeloupe, numéro 1 en Martinique.
Énergie Antilles, numéro 1 sur les gifts. Numéro 1 sur les cadeaux. Numéro 1 sur la proximité avec les auditeurs. Numéro 1 sur les artistes. Numéro 1 sur les concerts. Numéro 1 sur la bonne humeur. Énergie. Encore et toujours votre radio numéro 1. Énergie, it's music only.
Vous êtes à la recherche d'objets d'occasion. Vous avez un petit budget. Pas de problème. Si vous êtes adepte de la seconde main, vous êtes à la recherche des objets d'occasion pour moins de $100, notre amie Janine Maillard, fondatrice de FKZO et de Nagaza Fest, vous donne rendez-vous à sa deuxième vente le 28 septembre de 9h à 16h à Mississauga. De nombreuses entités existent pour trouver son bonheur. De nombreux matériaux en attente d'une deuxième vie, du mobilier, des vêtements, de la décoration ou l'électroménager et les appareils domestiques. Nagaza Fest, eh oui, le plus gros dépôt d'objets d'occasion, le 28 septembre de 9h à 16h à Mississauga, à ne pas manquer. Découvrez le choix d'objets d'occasion disponible pour moins de $100 sur nagazafest.ca ou encore popurucho.com. Allez, on y va!
Avec la nouvelle application Apprendre le français avec TV5Monde, apprenez le français où vous voulez, quand vous voulez. 3000 exercices variés et amusants à partir de vidéos directement issues de nos programmes pour améliorer votre compréhension orale du français. Débutant ou confirmé, on vous guide pas à pas avec des tas d'astuces et de conseils. Avec l'appli Apprendre le français avec TV5Monde, le français, c'est simple comme bonjour. Disponible gratuitement sur iOS et Android.
Je suis la langue française, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que l'on me parle et c'est parce que l'on m'écrit. Je lègue 26 lettres pour l'art et la poésie, pour styliser les romans, les mots doux et les scénarios. Sers-toi de moi pour te battre et protéger les valeurs, pour créer la connivence entre auditeurs et locuteurs. Parce que la diversité éloigne la monotonie. Mali, Mississippi, Canada, Cambodge, Haïti, j'accompagne les nobles causes de façon pacifique. Je suis rythmique, philosophique, pas si vite, libre, évolutive, la langue vie, révolte, danse. Et le livre des livres, livre des livres de pensée. Je cohabite avec les dialectes et d'autres langues. Ma structure grammaticale est un rempart à la novlangue. Je suis le développement durable, l'exemple d'écologie. Je suis la langue française, je suis la francophonie.
C'est un château royal de la Renaissance situé en Picardie. Et s'il attire aujourd'hui tous les regards, c'est parce que le château de Villers-Cotterêts abrite la nouvelle cité internationale de la langue française. Un lieu dédié à la richesse de notre langue, à son histoire et à son évolution, c'est Emmanuel Macron qui est à l'origine du projet. Bonjour à tous, que vous soyez français, suisse, belge, canadien ou encore sénégalais, vous avez tous un point en commun. Vous en avez sûrement bavé un jour ou l'autre avec la grammaire de la langue française. Une langue aujourd'hui parlée par plus de 300 millions de personnes dans le monde et dont certains dénoncent l'appauvrissement et regrettent le rayonnement passé. Alors qu'en est-il réellement? Allons voir ce qu'en pensent les spécialistes à la Cité internationale de la langue française.
Depuis plus de 50 ans, l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, met en œuvre des programmes de coopération. Son action est guidée par la conviction que le partage de la langue française peut être un puissant vecteur d'unité, d'opportunité et de dialogue entre les peuples. Depuis 2019, sous l'impulsion de Louise Mushikiwabo, quatrième secrétaire générale de la francophonie, l'OIF s'est engagée dans une profonde transformation pour adapter son fonctionnement et ses programmes aux défis contemporains. Plus forte, plus pertinente et mieux structurée, l'OIF entend, avec la confiance renouvelée de ses 88 États et gouvernements, répondre aux préoccupations des millions de francophones à travers le monde, en ciblant prioritairement les jeunes et les femmes. En 2023, l'OIF propose une nouvelle programmation sur 4 ans, articulée autour de 20 nouveaux projets dans 3 domaines majeurs. L'éducation et la culture, la démocratie et la bonne gouvernance, et le développement durable. Ces projets structurants doteront l'OIF de nouveaux moyens d'action pour notamment valoriser la langue française et améliorer son enseignement, renforcer les systèmes éducatifs et améliorer la visibilité des contenus culturels francophones, promouvoir l'enregistrement des faits d'état civil, l'état de droit et la démocratie, lutter contre les désordres de l'information, soutenir la paix et la stabilité, accompagner les États vers la croissance économique et la résilience climatique, et favoriser le numérique et le tourisme durable. Pour mener à bien ces missions, les 330 agents de l'OIF travaillent au plus près du terrain, de concert avec les autorités nationales et les acteurs de la Charte de la francophonie. Ils s'appuient également sur un large réseau d'experts représentatifs de la diversité de l'espace francophone, ainsi que des organisations de la société civile. Cette nouvelle programmation, la première portée par Louise Mushikiwabo, est dotée d'un budget en augmentation de 21%. Elle affiche clairement les ambitions de l'OIF de rapprocher les peuples et de contribuer à faire vivre, en français, l'aspiration à un monde plus solidaire, plus pacifique et plus respectueux des diversités.
Popourri Chaud, CUT 89,5 FM, présente le 19e sommet de la francophonie. La langue française à l'honneur à Villers-Cotterêts. Les 4 et 5 octobre, le 19e sommet de la francophonie est un événement majeur, compte tenu de ses enjeux diplomatiques, économiques, politiques et culturels. Un des temps forts internationaux de l'année 2024, aux côtés du 80e anniversaire du débarquement en Normandie et en Provence, des Jeux olympiques et paralympiques à Paris, et de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le sommet aura lieu au sein de la Cité internationale de la langue française, à Villers-Cotterêts, et à Paris, au Grand Palais. Du 2 au 6 octobre, sous la thématique « Refaire le monde », le Festival de la francophonie se déploie à la Gaîté Lyrique. Une programmation pluridisciplinaire, ouverte à tous et à toutes, et gratuite. Expositions, concerts, conférences et débats. Spectacle, humour, rencontres littéraires, projections de films, ateliers. Quel bilan pour les communautés francophones des 88 pays et États membres de l'Organisation internationale de la francophonie? Je vous invite, madame, monsieur, à parcourir le monde avec moi, à la découverte des trésors et des défis des francophones, des francophiles de la planète. Au mois de mars, j'étais à l'inauguration de la Cité de la langue française à Villers-Cotterêts. Alors je vous invite à fermer les yeux. Suivez-moi. Nous commençons avec l'édito de Patrick Cohen de l'émission C'est à vous, qui nous décrit la cité de la langue française. Est-ce un outil culturel ou politique? On y va?
Patrick, le président de la République a donc inauguré ce matin la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts.
Voilà, c'est le grand chantier culturel d'Emmanuel Macron, un projet à 210 millions d'euros, presque autant que le musée du Quai Branly, voulu par Jacques Chirac, 290 millions, certes 4 fois moins que la rénovation de Notre-Dame, plus de 800 millions, mais pour la première fois, nous ne sommes ni à Paris, ni dans une grande ville, mais dans une commune de 10 000 habitants, c'est-à-dire les deux pieds dans la ruralité.
Villers-Cotterêts, dans l'Aisne, c'est à 80 km de Paris, lieu symbolique pour la langue française.
Oui, c'est là où François Ier a signé en 1539 l'ordonnance imposant le français comme langue officielle de la justice. C'est aussi la ville natale d'Alexandre Dumas, et comme l'a écrit le créateur des Trois Mousquetaires au début de son roman Ange Pitou, Villers-Cotterêts est situé à 2 lieues de La Ferté-Milon ou naquit Racine, et à 8 lieues de Château-Thierry ou naquit La Fontaine, ce qui fait beaucoup de grands esprits et de belles plumes sur un tout petit territoire.
Et le château de François Ier était menacé?
Oui, il tombait en ruine quand Emmanuel Macron l'a visité lors de sa campagne de 2017. Le projet patrimonial à 30 millions d'euros a pris ensuite une toute autre dimension. C'était la volonté du président qui a donc transformé ce joyau Renaissance en château de la francophonie. Exemple de rénovation, on va voir des images, cette cour du jeu de paume laissée à l'abandon, voilà, ça c'est l'état de 2017, et qui après rénovation se trouve coiffée d'une verrière et d'un ciel lexical avec des dizaines de mots courants, savants, populaires ou désuets, on a perdu les mots et les images, mais on peut lire palindrome, bienvenue, chelou, carabistouille, comme un clin d'œil au président.
Mais les foules, on est bien d'accord, ne vont pas se déplacer juste pour lire carabistouille sous une verrière.
Non, ça c'est le décor. Non, on nous promet un parcours, je ne l'ai pas visité, donc je vous en parle comme ça à distance, hein, un parcours interactif de 1600 mètres carrés sur la langue française, avec une bibliothèque magique, une intelligence artificielle qui nous donnera des conseils de lecture personnalisés, oui, et plein d'autres choses destinées aux enseignants, enfants et adolescents, bibliothécaires, écrivains, traducteurs, comédiens, etc. Emmanuel Macron a expliqué dans son discours pourquoi il est important d'avoir un lieu dédié, le premier dans le monde d'ailleurs, à la langue française.
Parce que la langue française bâtit l'unité de la nation, et parce que la langue française est une langue de liberté et d'universalisme. Et ces deux raisons, dans le moment que nous vivons, suffisent à justifier l'importance de ce projet et du moment que nous partageons.
Le français ciment de la nation, français que le président juge inutile de rendre inclusif et incompréhensible.
Dans cette langue, le masculin fait le neutre. On n'a pas besoin d'y rajouter des points au milieu des mots, ou des tirets, ou des choses pour la rendre visible.
Voilà pour cette écriture inclusive que les sénateurs LR veulent d'ailleurs interdire. Proposition discutée ce soir même. Au passage, si le masculin fait neutre, comme le dit le président, pourquoi s'obstiner à dire français-français?
Ou celles et ceux.
Ou celles et ceux, ou les parisiennes et les parisiens, comme on dit en ce moment à Tahiti, ou les canoises et les canois, je ne sais pas comment vous en sortez, M. Lisnard.
Je dis chers canois.
Vous nous direz.
Inclusive de canoises.
Mais je ne vous ne dites pas chers canoises.
Je dis chers canois, et les canois s'y retrouvent, évidemment.
Donc vous êtes d'accord avec le président de la République?
Oui, ou il est d'accord avec nous, quoi. Enfin, c'est bien. Je me réjouis de cette position du président de la République, parce que l'écriture inclusive, en fait, elle est excluante. C'est quelque chose qu'il faut bien saisir. Elle est pleine d'idéologie, elle est moche. Donc, elle est difficile à transmettre. Et ce qui est moche, il faut le bannir, tout simplement.
On aura une question d'ailleurs à vous poser sur cette question, mais le choix de Villers-Cotterêts est aussi politique.
Oui, c'est une ville sans autoroute, à l'écart des grands axes, avec un taux de chômage élevé, malgré la présence du siège social de Volkswagen France. Dans l'un des départements de France les plus illettrés, l'Aisne, 13% des adultes touchés par l'illettrisme, presque 2 fois la moyenne nationale. Et depuis 2014, Villers-Cotterêts a élu et réélu un maire RN, Franck Briffaut, frontiste canal historique, si je puis dire, puisqu'il a rejoint Jean-Marie Le Pen en 77.
Et avec cet investissement, l'Élysée espère combattre le Rassemblement national?
Alors, je ne sais pas quelles sont les retombées économiques de cette cité. L'objectif évoqué de 200 000 visiteurs par an paraît très ambitieux. Il y a en tout et pour tout 2 hôtels à Villers-Cotterêts aujourd'hui, 68 chambres, j'ai compté. Enfin, sur le strict, on peut faire l'aller-retour depuis Paris, évidemment.
Non, mais ça concerne les Parisiens.
Enfin, sur le strict plan, évidemment, sur le strict plan électoral, je n'ai pas souvenir d'un projet
de parisienne.
Oui, pardon.
Vous voyez que ça marche.
Donc, est-ce que ça peut aider à combattre la reine? En tout cas, sur le plan électoral, je n'ai pas souvenir d'un projet culturel qui soit rémunérateur en voix. Dans ce livre paru il y a 20 ans, « Mon village à l'heure Le Pen », du journaliste Christian Duplan, qui décrivait précisément la montée du RN dans ce coin-là de Picardie. L'ancien maire socialiste de Villers-Cotterêts, Georges Boisise, raconte la bataille acharnée qu'il a menée pour construire une médiathèque. Il s'est battu contre une opposition qui criait à la démesure, au gaspillage. Le projet a coûté à la ville un peu plus d'un million d'euros en tout, contre une partie de sa majorité aussi. La médiathèque de Villers-Cotterêts a fini par ouvrir en 2000. 5 ans après, elle comptait plus de 3000 abonnés, ce qui est un beau succès dans une ville de 10 000 habitants. Mais aux élections suivantes, en 2001, ce sont les opposants à la médiathèque qui ont gagné la mairie.
C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents, où l'on sent la musique et le parfum des herbes, le fromage de chèvre et le pain de froment, et du Mont-Saint-Michel jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant parler les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe, qu'il en a gardé toutes les harmonies. Dans cette langue belle aux couleurs de Provence, où la saveur des choses est déjà dans les mots, c'est d'abord en parlant que la fête commence. Et l'on boit des paroles aussi bien que de l'eau. Les voix ressemblent au cours des fleuves et des rivières. Elles répondent aux méandres, au vent dans les roseaux. Parfois même au torrent qui charrie du tonnerre, en polissant les pierres sur le bord des ruisseaux. C'est une langue belle à l'autre bout du monde, une bulle de France au nord d'un continent, sertie dans un étau, mais pourtant si fécond. Enfermée dans les glaces au sommet d'un volcan, elle a jeté des ponts par-dessus l'Atlantique. Elle a quitté son nid pour un autre terroir. Et comme une hirondelle au printemps des musiques, elle revient nous chanter ses peines et ses espoirs. Nous dire que là-bas, dans ce pays de neige, elle a fait face au vent qui souffle de partout, pour imposer ses mots jusque dans les collèges, et qu'on y parle encore la langue de chez nous. C'est une langue belle qui sait la défendre. Elle offre les trésors de richesses infinies, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre, et la force qu'il faut pour vivre en harmonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie.
Valérie Singer est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue sur TV5 Monde, opérateur historique, on le rappelle, de la francophonie. Refaire le monde, le festival de la francophonie, vous en êtes la commissaire. Alors ça a démarré le 20 mars dernier, ici même d'ailleurs, notamment sur notre plateau avec vous. C'était il y a près de 6 mois. Peut-être première question, comment ça se passe depuis ?
Ça se passe très bien. Il y a tout un mouvement qui s'est engagé, effectivement, depuis le 20 mars, journée internationale de la francophonie, au cours de laquelle nous avons impulsé beaucoup d'initiatives dans le monde, puisque il y a plus de 150 projets qui ont eu lieu depuis dans 50 pays, sur les 5 continents, qui ont rassemblé 500 partenaires. Donc ça a donné lieu à des projets extrêmement différents, des débats, des rencontres dans les universités, des programmes pédagogiques entre des élèves de tous les pays de la francophonie, des événements culturels, bref, beaucoup d'initiatives qui mobilisaient particulièrement les jeunes francophones de moins de 40 ans et qui ont permis d'aborder beaucoup d'enjeux de société en français.
Alors, il va y avoir une montée en puissance tout au long de ce mois de septembre avec le point culminant du 2 au 6 octobre avec le sommet de la francophonie des 4 et 5. Ce sont les journées d'octobre, plusieurs sites pour fêter tout cela, notamment le château, bien entendu, de Villers-Cotterêts, avec sa cité internationale de la langue française, la Gaîté Lyrique également. Citons aussi le village de la francophonie, ce sera au 104. Et la station F, j'aimerais qu'on s'y arrête. Ça, c'est important, la station F. Le français, ça peut être la langue de l'innovation.
Tout à fait. Alors, il faut rappeler que le français, c'est la troisième langue des affaires dans le monde. C'est la quatrième langue sur Internet. Et partager le français, c'est un atout pour les entrepreneurs. Ils le disent. Et ce sera l'enjeu de cet événement Francotech, qui est effectivement le premier salon des innovations en français, qui est réservé aux professionnels. L'accès est payant. Donc il y a 1500 professionnels qui sont attendus de plus de 100 pays. C'est un événement qui suscite énormément d'intérêt. Et donc le 3 octobre après-midi et le 4 à Station F, qui est en plus vraiment le temple de l'innovation, c'est le plus grand campus de start-up au monde, à Paris, dans le 13e arrondissement, ces 1500 professionnels se retrouveront pour débattre de sujets tels que l'intelligence artificielle, la transition énergétique, et puis se rencontrer et faire des affaires.
Voilà, sommet de la francophonie, c'est l'autre grand événement après les Jeux Olympiques. On rappelle que le français est l'une des langues officielles des Jeux Olympiques et Paralympiques. À côté littéraire, 5000 livres, dont 2000 jamais présentés en France au forum de la Gaîté Lyrique. 2000 vraiment ?
Oui, alors la Gaîté Lyrique, ce sera vraiment le cœur battant du festival à Paris, du 2 au 6 octobre. Donc tous les jours, tous les soirs, une programmation très éclectique qui va rassembler des spectacles, des concerts, des débats, des rencontres. Et effectivement, une grande librairie que nous organisons en lien avec l'Association internationale des libraires francophones. Donc c'est une librairie éphémère qui permettra de découvrir 3000 livres qui n'ont jamais été présentés en France. Ce sont des livres qui viennent de tous les continents, de petits ou moyens éditeurs, qui seront présentés d'ailleurs par des éditeurs et des libraires venus eux aussi de l'international qui nous feront découvrir leur coup de cœur.
Le français, seule langue avec l'anglais, parlé à travers les 5 continents. L'humour aussi, c'est important, vecteur de la francophonie. Montreux Comedy Club, ce sera le 2 octobre avec des stand-up, des seuls en scène. Pourquoi refaire le monde en français alors que ce journal s'appelle 64 minutes, le monde en français?
Refaire le monde en français, c'est voilà un appel à l'imagination, à l'action. C'est essayer de changer peut-être certaines idées reçues sur la francophonie, notamment vue de France. C'est une manière de montrer que être francophone, c'est un atout dans un monde plurilingue, évidemment, et qu'on peut parler français, on peut parler d'autres langues en même temps. D'ailleurs, dans l'espace francophone, tous les pays sont des pays plurilingues, que c'est un atout pour se former, pour voyager, que c'est un atout pour faire des affaires, pour se rencontrer, échanger. Donc c'est ce visage vraiment d'une francophonie agissante, inspirante. C'est pour ça qu'on a invité beaucoup d'artistes, beaucoup d'auteurs des 5 continents. C'est ce visage de la francophonie que nous voulons montrer pendant 5 jours.
Et pour finir, alors on sait que Louise Mushikiwabo avait été reconduite à Djerba il y a 2 ans, donc il n'y a pas cette fois-ci de d'élection, de vote. Elle continue encore 2 ans. Pour vous, c'est quoi le grand enjeu de ce sommet? Il n'avait pas eu lieu en France depuis...
Alors, il n'avait pas eu lieu en France depuis 33 ans.
33 ans,
donc
ouais.
C'est déjà en soi un événement. Je pense que l'enjeu de ce sommet, c'est justement de montrer l'actualité de la francophonie, de montrer que la langue française, c'est un atout pour
peut-être
justement
pour plus jeunes aussi, notamment,
penser le monde,
qui ont des nouveaux mots, un nouveau vocabulaire aussi.
C'est une langue qui s'inscrit dans l'univers numérique, donc il y a énormément d'enjeux autour de la question du numérique, de l'intelligence artificielle, de tous ces outils qui permettent de conceptualiser décoloniser le monde. Donc je pense que ce sera un thème particulièrement débattu pendant ces journées.
Une grande fête pendant toutes ces journées, donc 4 et 5 octobre et du 2 au 6 octobre donc pour les journées d'octobre. Merci beaucoup Valérie Singer d'être venue sur notre plateau. J'imagine qu'on vous verra sur tous ces sites, sur place et avec plaisir.
Royal de la Renaissance, situé en Picardie. Et s'il attire aujourd'hui tous les regards, c'est parce que le château de Villers-Cotterêts abrite la nouvelle cité internationale de la langue française. Un lieu dédié à la richesse de notre langue, à son histoire et à son évolution. C'est Emmanuel Macron qui est à l'origine du projet. Instagrammable, ça vous fait penser à quoi ?
Oh là, à rien du tout, moi.
Badés, boboisés, spoilés, désormais, ils font officiellement leur entrée dans nos dictionnaires.
Écoutez-moi, vous parlez des belgicismes. Aujourd'hui matin, je n'ai pas choisi mon sujet à pouf.
La langue française est une langue vivante et heureusement pas qu'en France.
Avoir la bouche sucrée, ça veut dire être un beau parleur en Côte d'Ivoire. Ou encore, une personne qui s'énerve les poils de jambe. Alors ça, c'est une expression qui est utilisée au Québec pour décrire une personne un peu stressée. Ou encore le verbe girafer qui s'emploie en Afrique occidentale et qui veut dire copier quand on est à l'école.
C'est vraiment une photographie, même un sismographe de l'évolution du monde et de la société dans laquelle on vit.
Saint-Beuve avait raison de dire qu'il y a des mots qui sont vivants comme des ors, redoutables comme des conquérants, absolus comme des despotes, impitoyables comme le bourreau.
Édition spéciale, le 19e sommet de la francophonie à Villers-Cotterêts, le 4 et 5 octobre. RFI, France 24, à TV5 Monde, vous donne rendez-vous. CUT 89,5 FM vous accompagne tout au long du mois d'octobre, en direct de Paris. Le Canada est l'un des pays fondateurs et membres actifs de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie au sein de laquelle il poursuit son engagement fort et soutenu depuis plus de 50 ans. L'honorable Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères et responsable de la francophonie, responsabilité qu'elle a également assumée en tant que ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la francophonie. Elle est épaulée dans cette tâche par le représentant personnel du Premier ministre du Canada pour la francophonie, Sherpa, Sébastien Carrière, nommé le 5 avril 2023. Le Canada est le deuxième bailleur de fonds des institutions de la francophonie avec des contributions s'élevant à près de 42 millions de dollars en 2023-2024. 4 villes canadiennes sont actives au sein de l'Association internationale des maires francophones, Montréal, Québec, Terrebonne et Repentigny, ainsi que 3 fédérations de municipalités. Les assemblées législatives du Canada et de 5 provinces, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Ontario et le Québec, sont membres de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. 4 autres provinces, l'Alberta, la Colombie-Britannique, l'île du Prince-Édouard et la Saskatchewan, y sont associées. À l'occasion de l'inauguration de la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts, au mois de mars dernier, le ministre québécois de la langue française, Jean-François Roberge, s'est livré un véritable plaidoyer de la langue de Molière, qu'il juge en péril face à l'anglais. Il appelle à un réveil de la culture francophone et prend en exemple le durcissement de la législation québécoise que le gouvernement a initié en 2022. On écoute un extrait de son allocution et pour ma part, je tiens ma révérence, je vous dis au revoir, je vous retrouve au mois de novembre à Toronto. Il faut se faire respecter face à l'anglais. Le ministre québécois de la langue française, Jean-François Roberge. Et juste après, un concert sensationnel, explosif, à ne pas rater, comme fermeture de cette édition spéciale. Au revoir.
L'ordonnance de Villers-Cotterêts, signée par François Ier en 1539, symbolise l'acte de naissance du français comme langue officielle. Près de 5 siècles plus tard, Emmanuel Macron s'apprête à ouvrir la Cité internationale de la langue française au château de Villers-Cotterêts. En quoi cela va-t-il vraiment renforcer le français et la francophonie?
C'est une bonne nouvelle d'avoir une Cité internationale de la langue française. À elle seule, cette institution-là réglera pas tous les problèmes. Mais ça reste un élément positif. C'est un geste fort posé par la France, appuyé par le Québec, donc on vient renforcer un partenariat qui est naturel. Et d'avoir comme ça un musée de la langue française, ça peut aussi devenir un rendez-vous incontournable. Quand je vais en France, quand je vais à Paris, pas trop loin, je vais faire un tour par la Cité internationale. Pour moi, c'est que du positif. Et on a des indicateurs au Québec très importants sur la langue française, sur la vitalité de la langue française. On parle de la langue maternelle, la langue parlée à la maison, la langue de travail, la langue de consommation. Si on voit que ces indicateurs de vitalité de la langue baisse, bien, on doit prendre des moyens. Et c'est le cas en ce moment. On voit que la langue française est en péril, est en déclin au Québec. C'est sûr qu'au Québec, on est la seule État francophone d'Amérique du Nord. La culture anglo-saxonne exerce une grande pression sur le Québec. Donc, il faut valoriser nos artistes, il faut mettre de l'avant, je vous dirais, la culture québécoise, la culture francophone aussi internationale. Sinon, bien, on a des chances de basculer du côté de l'anglais. Même si on veut que les Québécois soient bilingues, on veut vivre et vibrer en français. Un des facteurs qui explique peut-être la baisse du français au Québec, c'est l'arrivée du numérique. On a vu qu'entre 1901 et 2001, les indicateurs du Québec ont peu changé. Il y a eu des fluctuations, mais grosso modo, il n'y a pas eu de réelle baisse. Mais entre 2001 et 2021, il y a quand même une chute importante et ça correspond avec l'arrivée des plateformes de diffusion numérique. Donc, les Spotify, les Netflix, les Disney, etc. Ce qui est proposé d'emblée, c'est du contenu qui n'est pas québécois ou francophone, c'est du contenu qui est davantage anglo-saxon. Toute la francophonie doit se mobiliser pour reprendre le contrôle de notre langue, de notre culture, puis le faire à travers le numérique. C'est vrai qu'il y a un effet de mode, surtout peut-être chez les plus jeunes, de ponctuer les phrases avec des termes en anglais. Certains vont dire que c'est cool, justement, d'utiliser l'anglais, mais il faut que le français perdure. Je veux dire, le français n'a pas perdu de son chic, n'a pas perdu de sa pertinence. Le vocabulaire est extrêmement varié. Je pense pas qu'il y a des choses qu'on ne peut pas exprimer en français parce qu'on manquerait de mots. Et s'il arrive de nouvelles choses qui n'existaient pas, créons les mots français pour les nommer. Pourquoi dire faire un stop quand on arrive à un coin de rue, quand on peut faire un arrêt, tout simplement. Si maintenant on dit chatter, ben nous on appelle ça clavarder. On bavarde avec un clavier, on a créé le verbe clavarder. Tout simplement, conjuguer un mot anglais en français, pour nous, ce n'est pas ça du français. Lorsqu'un nouveau film sort, on ne veut pas dire la fin, on ne dit pas spoiler, on dit il ne faut pas divulgâcher. C'est presque de la poésie, là. Divulguer et gâcher le plaisir de voir la fin du film. On ne dit pas j'ai reçu un mail ou un email, on dit j'ai reçu un courriel. Je ne vous dis pas qu'on ne dit jamais week-end, mais on a tendance à dire fin de semaine. Et on a une certaine vigilance, même si on est imparfait, même si moi aussi j'utilise les anglicismes, on essaie de faire attention. Il faut se faire respecter. Lorsqu'on circule au Québec, dans les rues de Montréal ou dans les rues de toutes les villes, bien, il faut avoir conscience qu'on circule dans le seul État francophone d'Amérique du Nord. Donc, c'est pas normal qu'on soit exposé à de l'affichage dans d'autres langues que le français. On pense à l'anglais, mais ça peut être d'autres langues que le français. C'est-à-dire qu'on pourrait, par exemple, avoir un affichage qui inclut de l'anglais, mais il faut que le français soit nettement prédominant.
En 2022, une loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, la loi 96, a beaucoup fait parler d'elle lors de son adoption par le Parlement québécois. Qu'a-t-elle mise en place exactement? Et en quoi consiste votre ministère à vous?
Le ministère québécois, la langue française, est tout nouveau, il y a à peu près 18 mois. Sa mission, c'est de valoriser et promouvoir la langue française au Québec, aussi dans la francophonie canadienne. Je préside d'ailleurs un comité interministériel qui est important, qui s'appelle le groupe pour l'avenir de la langue française. On est 6 ministres à se rencontrer et on va très bientôt déposer un plan de relance de la langue française au Québec. On doit aussi travailler à l'aménagement législatif parce qu'on a des lois très importantes au Québec pour protéger la langue française. C'est une loi dont on est très fier. On l'appelle maintenant une des lois fondamentales. En fait, elle est venue modifier la loi qu'on appelait la loi 101, la Charte québécoise de la langue française, en ajoutant, par exemple, le principe de l'exemplarité de l'État. L'État québécois et ses institutions doivent maintenant être exemplaires, c'est-à-dire communiquer avec les citoyens exclusivement en français. Ce sont des lois qui défendent pas seulement la langue, mais qui défendent l'identité, qui défendent qui on est. Donc, bien sûr, ça fait pas l'unanimité, mais ça fait consensus. On est venu aussi toucher l'enseignement supérieur parce que on a, au Québec, on a ce qu'on appelle des collèges, des cégeps, et on a des cégeps anglophones et francophones, mais on voyait que le nombre d'étudiants et la proportion augmentaient beaucoup dans les cégeps anglophones. Par une loi, on est venu plafonner à 17,5% le nombre total d'étudiants qui pouvaient aller dans des cégeps anglophones. Que même dans un cégep anglophone, il faut obligatoirement des cours de français. Donc, c'est des changements qui sont très, très, très importants et auxquels les Québécois tiennent. Il y a des entreprises maintenant qui doivent avoir ce qu'on appelle des comités de francisation, qui doivent s'assurer qu'à l'intérieur de l'entreprise, on utilise le français. C'est pas interdit d'utiliser une autre langue que le français, mais de manière générale, il n'y a pas de raison pour qu'une entreprise québécoise qui discute avec une autre entreprise québécoise utilise une autre langue que le français.
Une partie de la loi 96 touche à l'immigration. Le premier ministre François Legault voulant contrôler les arrivées non francophones imposées par Ottawa, en quoi l'apprentissage du français est indispensable à la bonne intégration des immigrés au Québec?
L'immigration peut être positive, peut être une solution pour la langue française, mais ça peut aussi être un défi. Si on fait venir chez nous des gens qui, à la base, ne maîtrisent pas le français, ben il faut les franciser. Si on les fait venir de manière très, très nombreuse, ça pose un défi d'intégration à la société québécoise, autant à la langue qu'à la culture. Parce que les gens qui font le choix de venir vivre au Québec doivent comprendre qu'ils veulent participer à la vie citoyenne d'un État qui est francophone. La dernière loi où on dit le français est la langue officielle et commune, ben, s'ils ne parlent pas déjà français, ils doivent apprendre le français. C'est pour ça qu'on s'est doté d'une institution qui s'appelle Francisation Québec. Et maintenant, avec cette nouvelle loi, l'apprentissage de français est un droit inaliénable au Québec. Je vous dirais que du côté du nouvel arrivant, ça devient aussi une obligation. On a toujours des droits et des obligations, des droits et des devoirs. On est dans des postures différentes, mais moi, je pense qu'au lieu de se moquer peut-être la France du Québec, le Québec de la France, on peut peut-être s'inspirer des bons coups les uns des autres. Nous, on s'est doté d'institutions importantes. Et jamais on penserait reculer là-dessus. Toutes les nations francophones, pas seulement le Québec, pas seulement la France, devraient avoir ces institutions-là.
J'ai 7, j'ai 8, pays du Nord. Moi je viens vers vous avec des paroles du Sud, une mélodie de misère, une guitare importée. Je viens vous parler sans vouloir vous offenser. On me dit que ça va de crise en crise et que la nature fait son petit showbiz. Ça va mal, oui ça va mal. Ça va mal, mal, mal. C'est normal. Si vous forcez de l'herbe à pousser dans vos déserts et vous gaspillez beaucoup d'eau pour ça, tandis qu'en Somalie on veut juste boire, il n'y en a pas. Ah, ah, ah. Si vous avez des bombes et des armes nucléaires et vous dépensez
dépenser énormément d'argent pour ça. Tandis qu'en Haïti, on veut manger, il n'y en a pas. Ah, ah, ah. Mais ça, c'est pas normal. Mauvaise répartition, mauvaise distribution, mauvaise exploitation, mauvaise utilisation, hey. Mauvaise répartition, mauvaise distribution, hey. Mauvaise exploitation, mauvaise utilisation, hey. Superpuissance, pays du Nord. Moi je viens vers vous avec une réflexion du Sud. Et je suis fils d'esclaves venu d'Afrique. Mon père a sans doute travaillé pour vous aider à progresser. On me dit que ça devient inquiétant. On parle de réchauffement, de volcan, de tremblement. Ça va mal, oui ça va mal. Ça va mal, mal, mal. C'est normal. Si vous fouillez le sous-sol à la recherche du pétrole que vous utilisez pour crever la couche d'ozone, ainsi de bas en haut, vous faites de la démago. Vous vous vantez d'avoir exploré d'autres planètes sous prétexte de résoudre les problèmes de l'univers. Tandis que la faim et des épidémies tuent des gens sur Terre. C'est pas normal. Mauvaise répartition, mauvaise distribution, hey. Mauvaise exploitation, mauvaise utilisation, hey. Mauvaise répartition, mauvaise distribution, hey. Mauvaise exploitation, mauvaise utilisation, hey. Isabelle Abel Adon Dubréville. Un petit coup de moulin guitariste, s'il vous plaît, allez là. Réchauffement climatique, on parle d'éruption volcanique, l'environnement, on doit le protéger. Ce soir, je veux que vous chantiez avec moi ce refrain, si vous êtes conscient du danger. Il y a danger, il y a danger, il y a danger, il y a danger. Il y a danger, il y a danger, il y a danger.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Baisse un petit peu la musique. La chanson que je vais vous chanter maintenant, c'est une chanson, à chaque fois que je dois la chanter, je fais en sorte de la chanter de plus en plus forte que possible, pour qu'elle aille de plus en plus loin. En fait, c'est une chanson qui parle de la différence qu'il y a entre l'homme grandi et l'homme petit, ou plus simplement entre un adulte et un enfant. Donc, c'est une histoire qui m'est arrivée une fois, j'étais en terre étrangère, j'étais seul dans un train. Il était environ 11h30 du soir. Il y a une dame qui est montée avec un enfant de 6 ou 7 ans. Donc j'étais seul avec ma guitare. Et l'enfant voulait jouer avec moi. L'enfant voulait être mon ami. Il voulait toucher ma guitare. Et la dame ne voulait pas. En disant, viens petit, viens. Et au premier arrêt, la dame est descendue. En pensant que j'étais, je ne sais pas, soit un assassin ou je ne sais pas. C'est ainsi que j'ai compris que nous les hommes grandis, Si on avait cette facilité de communication, cette facilité de confiance entre nous, peut-être qu'on aurait un monde meilleur. Et comme ça, j'ai qu'une chanson pour dire pourquoi a-t-on grandi, que je vais chanter pour vous ce soir, mesdames et messieurs. Pourquoi a-t-on grandi si c'est pour compliquer la vie, si c'est pour faire la différence entre les couleurs et les races? Pourquoi a-t-on grandi si c'est pour compliquer la vie, si c'est pour faire la connaissance de la haine et la vengeance? J'ai eu la chance de faire plein de pays, j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai vu des adultes, j'ai vu des jeunes, j'ai vu aussi des enfants. Je me suis fait beaucoup d'amis et peut-être des ennemis. Petit à petit j'ai compris et j'imaginais Hitler quand il était enfant, c'était un bon petit garçon, jouait au foot avec les juifs dans la cour de sa maison. Ben Laden aimait les feux d'artifice, passionné des grands édifices. Saddam avait peur de la police. Ils ont grandi, tout a changé. Pourquoi a-t-on grandi si c'est pour compliquer la vie, si c'est pour faire la différence entre les couleurs et les races? Pourquoi a-t-on grandi si c'est pour compliquer la vie, si c'est pour faire la connaissance de la haine et la vengeance? J'ai eu la chance de chanter pour eux. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, il y en a qui sont fâchés contre moi parce que je dis la vérité. Encore une fois, je me suis fait des amis et qui sait, des ennemis. Je continue à comprendre et imaginer. Dans l'avion à Hiroshima, ils envoyaient des bonbons là-bas. C'était des ballons, des PlayStation qu'ils apportaient pour les copains. Trulio le Dominicain, son meilleur ami était un Haïtien. Il a grandi, il a changé, c'est qu'en 2000 il a tué. Les enfants n'ont pas de cœur pour haïr, pas assez grand pour trahir. Et si les cœurs des grands étaient fessis, le monde serait un paradis, un paradis. Écoutez ce refrain. Oui, on veut grandir avec amour. On veut pas de pleurs, on veut pas de guerre. On veut grandir. Oui, on veut grandir avec amour. On veut pas de pleurs, on veut pas de guerre. On veut grandir. Imaginez, mesdames et messieurs, dans cette salle, il n'y avait que des enfants ce soir. Imaginez, imaginez, même une petite seconde, qu'il n'y avait que des enfants ce soir. Alors, essaie de chanter avec moi. Allez, de ce côté. Sur le pont d'Avignon,
on veut grandir avec
Alouette.
On veut pas de pleurs, on veut pas de guerre.
Sur le pont,
oui, on veut grandir.
On est dansé tous en rond. Alouette, gentille Alouette. Alouette, je te plumerai. Alouette, gentille Alouette. Hey, on veut grandir.
Merci.
Écoute, pendant que vous avez les mains en l'air, pendant que vous avez les mains en l'air comme ça, allez, les mains en l'air comme ça. Ça, c'est, ce serait beau pour la caméra. Hein. Les mains en l'air comme ça, ok. Les mains en l'air comme ça, ok. C'est une image qu'on va envoyer là pour dire, nous, la francophonie, on veut être solidaire. On prône la solidarité. Alors, tu vas prendre la main de la personne qui est à côté de vous. Allez, comme ça. Chacun, comme ça. Les mains en l'air. Aidez, toi. Voilà. Ok. Ça, c'est une image. Hein. C'est bon là. Merci beaucoup. Et là maintenant, je vais vous emmener en Haïti un tout petit peu. Nous, quand on est stressé, moi, comme je suis chanteur, je chante à chaque fois. Et vous allez crier pour vous décompresser, crier pour vous libérer. Vous êtes prêts à crier avec moi? Vous êtes prêts? Hey, ma mama, yeah, la mama, 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 mama. Si au fond de vous tout est confus, tout est mélangé, tout est perdu, et si dans la tête il n'y a plus de contrôle, les joies et les pleurs changent de rôle, si dans le cœur l'amour s'en va, et si la haine avance à grands pas. Hey, ma mama, yeah, la mama, 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 mama. Hey, ma mama, hey. Écoute, si le courage vous abandonne, si la faiblesse vous emprisonne, moi je chante à chaque fois que je suis comme ça. Si vous pouvez pas chanter, allez, criez. Criez pour vous libérer, criez. Hurlez pour décompresser, hurlez. Hey. Yeah, yeah, yeah. Hey. Ne vous tracassez pas, non. Ni l'alcool ni la drogue ne sont les bonnes solutions. Oh non, c'est pas bon,
c'est pas bon.
Surtout pas de suicide, non. Moi je chante à chaque fois, si vous pouvez pas crier. Crier pour vous libérer, crier. Hurler pour décompresser, hurler. Yeah, yeah, yeah. Hey. La tête en bas, les pieds en haut, la face est dans le dos. Le cœur qui bat, en contre-temps, on perd le tempo. Ça se complique, c'est la panique, moi je chante toujours. Et vous, criez pour vous libérer, criez. Hurlez pour décompresser, hurlez. Ouais. Voilà. T'es fatigué, y'a dans ta tête, dans la vie, on t'aide. Tu perds le son, tu perds le ton, t'es désaccordé. T'as détonné, moi je chante encore. Et vous, hey, le son d'Haïti, le son d'Haïti. Hurlez pour décompresser, hurlez.